Oui, Marie-France, je disais, j'ai fait exprès là pour découper chacun des mots de la première ministre parce qu'elle semblait déterminée à dire nos lois sur la possession des armes à feu vont changer.
Oui.
Alors qu'on a assisté, même chez nous, après des drames effroyables comme Polytechnique et encore moins aux États-Unis,
exact.
Sur ce discours flou, ce discours politiquement correct, on doit s'interroger, on doit penser à l'avenir et dire comment peut-on... Elle a dit, il a utilisé 5 armes semi-automatiques, nos lois vont changer.
Voilà, une première ministre vraiment très déterminée, très ferme, et ça nous change, et c'est certainement des paroles qui vont être accueillies avec beaucoup d'empathie que celle de cette première ministre. Et je veux d'abord commencer, Paul, en disant que mes pensées vont aux familles des victimes et à celles des victimes de l'attaque de Québec qui voient aujourd'hui leur plaie réouverte. C'est absolument effrayant pour eux et pour elles, ce qui arrive. Des réflexions en vrac que j'ai notées depuis cette nuit quand j'ai pris connaissance de cet événement-là. D'abord, tout de suite, on a parlé de terroristes, d'attentats terroristes. Tout de suite. Et le terrorisme, c'est un outil qui a vocation à ce que des millions de personnes regardent, qu'on provoque chez elles la terreur par le biais médiatique. Et Alexandre Bissonnette n'a jamais été nommé, n'a jamais été reconnu terroriste, ce qui est un manque quand même incroyable parce que c'est le même genre d'attaque, le même genre de phénomène et c'est vraiment du terrorisme et on l'a reconnu tout de suite dans le cas de la Nouvelle-Zélande. Parlant d'Alexandre Bissonnette, le tueur de la mosquée de Québec, son nom était gravé sur un des chargeurs du tueur australien dans le cas de Christchurch avec quelques autres noms et il se revendiquait également de Andrew Breivik, le tueur d'Utøya et d'Oslo en Norvège. Comme s'il y avait une espèce de contamination, comme s'il y avait un panthéon des idoles, des modèles dans la tête de ces fêlés, de ces suprémacistes-là. Il devient, et là, Alexandre Bissonnette devient un des membres de ce panthéon. Il devient, il fait partie de ce phénomène de relance-là. C'est vraiment très particulier à voir. Et d'autant qu'aujourd'hui, par le biais de ses avocats, il s'est dit troublé, Alexandre Bissonnette, qu'il ne voulait pas servir de modèle. Là, tu as envie de dire, come on, c'est le principe même de l'acte que tu as posé, être vu et à la limite, être imité. C'est, vraiment, j'ai eu beaucoup de misère quand j'ai vu
moi, j'ai eu énormément de misère.
Ah, oui, hein?
Et pas seulement ça, la communauté musulmane de Québec, Mohamed Labidi, pense que tout ça, c'est une démarche juridique dans une situation...
Ça ressemble à ça.
Ben oui, de porter la sentence en appel.
Oui, vraiment.
Et c'est pas très, très... c'est pas très beau.
Non,
pas
c'est vraiment pas chic. Je remarque en passant que la fachosphère, l'extrême droite très qu'on entend très souvent, très silencieuse ici en France. Je parle de la France parce que le terroriste australien a fait référence à la France. On va y venir tout à l'heure, mais très, très, très silencieux de ce côté-là. J'ai aimé que tu parles de la Nouvelle-Zélande et que tu parles de Christchurch. Christchurch, comme Québec, deux villes à taille humaine, deux villes sans frénésie des métropoles, sans la violence des métropoles, des villes pacifiques. À Christchurch, 1% de musulmans seulement. La Nouvelle-Zélande, une cinquantaine de meurtres à tout casser par année.
Ouais.
Vraiment des cultures très tranquilles, des cultures anglo-saxonnes. D'ailleurs, dans les deux cas, Québec, on fait quand même partie du Canada, c'est une culture anglo-saxonne. Christchurch également, avec du multiculturalisme, mais où souvent on a une vision faussée. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas nés ici que la réalité. Je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais le fait que ce soit vraiment des villes paisibles et tranquilles rend cette folie, cette frénésie et cet acte terroriste d'autant plus visible et choquant. Je t'entendais parler avec Mathieu Roy tout à l'heure et ce côté-là est extrêmement important. C'est un terrorisme formaté pour les réseaux sociaux. Il est vraiment question ici d'images et de marketing et le web n'est plus une autre réalité. Le web s'est rendu la réalité. Cet acte-là était scénarisé pour être relayé le plus largement possible par les réseaux sociaux. C'était un flux en direct, une vidéo qui a duré 17 minutes avant d'être interrompue, postée sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, massivement publié sur un forum de discussion qui donnait des liens vers le manifeste du tueur et vers le Facebook de l'attaque. Il y a des références à Fortnite, ce jeu vidéo extrêmement populaire. C'est vraiment par et pour les réseaux sociaux qui sont, de toute évidence, son public. C'était destiné à capter l'attention du public, à apeurer la population et éventuellement à recruter de nouveaux adeptes. Et ce qui est fascinant aussi, Mathieu en parlait, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est propagé et ce qui démontre des failles inouïes du supposé système de modération de Facebook. Ce sont des algorithmes qui sont supposés arrêter, stopper des images comme ça. Et quand on pense que le nu est automatiquement saisi par les algorithmes, que tu présentes par exemple la naissance du monde, cette toile célèbre, et que comme ça représente un nu féminin très explicite, les images sont interdites. Et là, des images d'une violence inouïe comme ça ont roulé pendant 17 minutes. Mmh. C'est quand même fou. Mais vraiment, c'est probablement le premier acte terroriste formaté à ce point pour les réseaux sociaux.
Très bien planifié et,
ah oui.
et vraiment avec une mise en scène effroyable,
vraiment.
Mais extrêmement efficace, comme l'a dit Mathieu Roy, qui m'a fait réfléchir une fois que c'est sur le web. Quand bien même que des géants comme Facebook ou Twitter retireraient le plus rapidement possible, il y a déjà des gens qui ont copié.
Absolument.
Copié.
Et c'est
images.
Probablement ce que moi j'ai vu
et,
cette nuit.
Ben oui, probablement parce que
oui, ça faisait quand même peut-être au moins un bon gros trois quarts d'heure après que l'événement soit survenu.
Ah ben oui, mais ça c'est sûr.
C'est probablement ça que j'ai vu des captures d'écran. Le tueur principal est un suprémaciste blanc. C'est vraiment particulier parce que il a fait référence à ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement. Et c'est une théorie qui a sa galaxie de penseurs, qui a ses héros. Et il est allé en France, le tueur australien, en 2017, et il s'est dit bouleversé par la présence très visible de minorités, traumatisé par le fait que Marine Le Pen, on était en pleine campagne présidentielle à ce moment-là, la candidate de l'extrême droite, se fasse ramasser, entre autres, dans un débat décisif par Emmanuel Macron, qui deviendra président. Et ça a été pour lui, a-t-il dit, la preuve que la solution politique était sans issue. Il dit ça dans son manifeste. Ce qui est évidemment faux. Et le grand remplacement auquel il fait référence, c'est une théorie qui a été élaborée par Renaud Camus, qui est un écrivain, un militant d'extrême droite. Et d'ailleurs, ce matin sur Twitter, il se désolidarisait de l'attentat. Il l'a fait vraiment très tôt ce matin. La thèse, c'est que tu as dans un pays donné une population unie, semblable, et puis tout à coup, le temps de le dire, en même pas une génération, deux populations habitent sur le même territoire qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, dont une veut remplacer l'autre, avec ou sans l'aide de la première population. Et il dit qu'il y a des facilitateurs qu'il appelle des remplacistes qui veulent céder la place à la deuxième population. C'est un fantasme collectif, mais qui est repris par des politiques en France. Jean-Marie Le Pen a adopté ça, Marion Maréchal Le Pen, Éric Zemmour, bien connu, est d'accord avec ça. On pourrait presque dire que le livre « Soumission » de Michel Houellebecq élabore sur les thèses du grand remplacement. Donc, c'est vraiment une thèse qui circule, qui est extrêmement dangereuse, fallacieuse, et c'est devenu quelque chose sur laquelle s'appuie maintenant, en tout cas, s'est appuyé un terroriste qui a fait des ravages ce matin. C'est très, très, très particulier. Mmh. Et la dernière chose que je voudrais te dire à propos de ça, c'est de redire que les grandes victimes du terrorisme dans le monde sont les musulmans et que les principaux attentats contre des mosquées ont lieu dans les pays musulmans, des factions salafistes la plupart du temps contre des chiites. Je te rappellerai l'horrible attentat en novembre 2017 en Égypte qui a fait 305 morts dans une mosquée. Au Koweït en 2015, 27 morts, toujours des salafistes. Ça n'excuse rien, ça n'atténue en rien le geste immonde du terroriste australien suprémaciste blanc ce matin, mais juste redire que les musulmans gens sont des victimes.
On le voit régulièrement.
Régulièrement,
en Irak,
absolument.
Encore, en oui. Afghanistan, au Pakistan.
L'État islamique a vraiment atteint des populations musulmanes. Ouais. Mais donc, vraiment, les musulmans, toutes nos pensées sont avec eux aujourd'hui, et particulièrement ceux de Québec.
Alors, merci Marie-France et bon week-end.
À toi aussi, Paul. Au revoir.